un bienheureux pour notre temps, Louis-Édouard Sestac, 1801-1868. Une émission proposée par Sœur Maria Ressus Iracheta, servante de Marie.
Quel bon conseil! Persévérer, prier et attendre. Nous prions dans le psaume 29. Dans mon bonheur, je disais, rien, jamais ne me branlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Souvent, notre vie de foi, comme celle du psalmiste, paraît mise à l'épreuve. C'est la nuit, le doute, et nous sommes, comme lui, épouvantés. Ce fut aussi le cas pour le père Sestac. Faisant mémoire de la fondation des orphelines, il écrit « Tout jusque-là paraissait admirablement marcher, ô ma tendre mère, et donner les meilleures espérances. Mais l'esprit d'insubordination se manifesta bientôt chez elle. Les cabales, les révoltes se multiplièrent parmi ces pauvres petites. Les jours du travail, l'obéissance leur parut insupportable. Ni la douceur, ni les punitions, rien n'avait de succès pour ces enfants. Ce fut un véritable enfer. Plongée dans les ténèbres et la désolation, je fus consulter un saint religieux franciscain. Je lui demandai s'il ne pensait pas que je ne me fusse trompé sur le dessein de Dieu. Sa réponse fut négative, et il me dit très nettement que je devais persévérer, prier et attendre. J'ai reçu cette décision comme venant de Dieu même, et je me résignai à accepter tout ce qui lui plairait. Une tristesse infinie ne se soigne, nous dit le pape François, que par un amour infini. Ma bonne mère, cette réponse releva mon courage et me fit sentir ma faiblesse et ma lâcheté. Oh, que je vous remercie, car sans cette grâce, que je reste devenue. Et nous voyons le père Sestac se mettre à nouveau à l'œuvre pour repenser l'organisation des tâches de ses collaboratrices, en tenant compte des atouts de chacune. La petite maison, qu'au dire de l'abbé, marchait bien péniblement, elle repartit sur de bonnes bases, et quelques enfants vinrent se joindre aux 7 premières. Elles s'étaient bien gênées dans leur pauvre habitat. Monsieur le maire Balasque eut la pensée de lui proposer la maison du Grand Paradis, lorsque, pour de diverses raisons, la municipalité proposa aux filles de la Croix qui l'habitaient une autre, plus convenable, au centre-ville. « J'acceptai avec reconnaissance, » écrit le père Sestac, et après avoir remercié M. Dubroc de la charitable hospitalité qu'il nous avait donnée, nous transportâmes l'œuvre dans la nouvelle demeure que votre bonté, ô bonne divine maîtresse, lui avait ménagé. Ces enfants vous appartenaient, et vous vous montriez leur mère, car l'ennemi ne tarda pas à paraître et à faire sentir sa funeste influence. Un prêtre, d'ailleurs très respectable, selon le père Sestac, fit trouver Monseigneur et lui dit que cette œuvre avait l'approbation de tout le monde, mais qu'une circonstance pourrait entraver la durée et peut-être son développement. C'est que l'abbé Sestac était seul directeur et responsable, sans qu'il eût à rendre compte à personne, ni de sa gestion, ni de l'emploi des fonds qu'on lui confiait. Que tout le monde connaissait l'abbé Sestac pour un prêtre scellé, mais qui n'avait pas d'ordre dans ses affaires, et qu'il était ce qu'on appelle un panier percé, qu'il donnait, à tort et à travers. Donc, qu'il serait bon de lui proposer un conseil d'administration. Il désigna lui-même les personnes qui pourraient en faire partie. C'étaient des hommes riches, chrétiens et jouissant de la considération universelle, et lui-même en ferait partie. Monseigneur approuva cette idée et promit d'en parler au père Sestac. L'abbé écrit dans ses notes « Monseigneur m'a transmis à peu près, mot par mot, ce qu'il lui avait dit ce responsable ecclésiastique et conclu à la formation du dit conseil d'administration, me faisant sentir avec beaucoup de bonté que ces messieurs seraient pour moi pleins de bienveillance. » Et s'adressant à Marie, il continue « Et vous, ô ma tendre et douce mère qui veillez si attentivement au commencement de votre petite œuvre, vous daignâtes m'éclairer et me montrer comme d'entrée des lumières les périls qui se présentaient. » La crainte du père Sestac était double. Tout d'abord, que ce conseil substitue les pensées divines par des pensées humaines, qu'il accepte à l'orphelinat des enfants pour lesquels on aurait offert de petites pensions, que l'esprit des calculs, des prévoyances s'introduise dans l'œuvre et fasse disparaître, avec le recours à la divine providence, le mouvement de charité suscité dans toute la ville de Bayonne. Vous, la meilleure des mères, vous m'inspirez une réponse simple qui désarma Monseigneur l'évêque. Monseigneur, lui dis-je, si l'on voit la tête de cette œuvre de sommes riches, millionnaires, on dira « ces messieurs sont à eux-mêmes capables de la soutenir ». Si au contraire on ne voit que le pauvre abbé Sestac, on aura pitié et on donnera comme on donne, Monseigneur. Car jusqu'à ce jour, rien ne nous a manqué. Eh bien, me répondit Monseigneur, continuez et nous laisserons ainsi marcher les choses. La réponse simple du père Sestac qui désarma Monseigneur jaillit sans doute de sa foi agissante. Car comme dit saint Ambroise, la foi simple au prime abord, mais foulée par l'adversité, répand le bienfait de sa vertu de manière à pénétrer de son parfum ceux qui l'entendent. L'air pur de l'Esprit Saint dont parle le pape François a dissipé ainsi les craintes du père Sestac. Il a éloigné les risques de refuser la prophétie des frères et de réduire la référence du cœur à l'horizon d'autres intérêts. Quelque temps après, l'œuvre des orphelines marchait, au dire du père Sestac, comme une petite barque poussée par un vent doux et favorable. Il pouvait donc chanter avec Marie comme les psalmistes. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parures de joie. Que mon cœur soit en fête pour toi et que, sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce.
Tu m'épargnes les rires de l'ennemi.
Louis-Édouard Sestac, prêtre et fondateur, un bienheureux pour notre temps. Vous venez de suivre une émission proposée par Sœur Maria Ressus Iracheta, servante de Marie.